Les possédés, deuxième partie, chapitre 6, suite. Pierre Stepanovitch se donna beaucoup de mouvements durant cette journée. À peine eut-il quitté Von Lamke qu'il se mit en devoir d'aller rue de l'Épiphanie. Mais, en passant rue des Bœufs, devant la demeure où logeait Karmazinov, il s'arrêta brusquement, sourit et entra dans la maison. On lui répondit qu'il était attendu, ce qui l'étonna fort, car il n'avait nullement annoncé sa visite. Mais le grand écrivain l'attendait en effet, et même depuis l'avant-veille. 4 jours auparavant, il lui avait confié son « Merci », le manuscrit qu'il se proposait de lire à la matinée littéraire. Et cela par pure amabilité, convaincu qu'il flattait agréablement l'amour-propre de Pierre Stepanovitch en lui donnant la primeur d'une grande chose. Depuis longtemps, le jeune homme s'était aperçu que ce monsieur vaniteux, gâté par le succès et inabordable pour le commun des mortels, cherchait, à force de gentillesse, à s'insinuer dans ses bonnes grâces. Il avait fini, je crois, par se douter que Karmazinov le considérait, sinon comme le principal meneur de la révolution russe, du moins comme une des plus fortes têtes du parti, et un des guides les plus écoutés de la jeunesse. Il n'était pas sans intérêt pour Pierre Stepanovitch de savoir ce que pensait l'homme le plus intelligent de la Russie. Mais jusqu'alors, pour certains motifs, il avait évité toute explication avec lui. Le grand écrivain logeait chez sa sœur, qui avait épousé un chambellan et qui possédait des propriétés dans notre province. Le mari et la femme étaient pleins de respect pour leur illustre parent. Mais, quand il vint leur demander l'hospitalité, tous deux, à leur extrême regret, se trouvaient à Moscou, en sorte que l'honneur de le recevoir échut à une vieille cousine du chambellan, une parente pauvre qui, depuis longtemps, remplissait chez les deux époux l'office de femme de charge. Tout le monde dans la maison marchait sur la pointe du pied depuis l'arrivée de M. Karmazinov. Presque chaque jour, la vieille écrivait à Moscou pour faire savoir comment il avait passé la nuit et ce qu'il avait mangé. Une fois, elle télégraphia qu'après un dîner chez le maire de la ville, il avait dû prendre une cuillerée de médicaments. Elle se permettait rarement d'entrer dans la chambre de son hôte. Il était cependant poli avec elle, mais il lui parlait d'un ton sec, et seulement dans les cas de nécessité. Lorsque entra Pierre Stepanovitch, il était en train de manger sa côtelette du matin avec un demi-verre de vin rouge. Le jeune homme était déjà allé chez lui plusieurs fois et l'avait toujours trouvé à table, mais jamais Karmazinov ne l'avait invité à partager son repas. Après la côtelette, on apporta une toute petite tasse de café. Le domestique qui servait avait des gants, un frac et des bottes molles dont on n'entendait pas le bruit. « Ah !» fit Karmazinov qui se leva, s'essuya avec sa serviette et, de la façon la plus cordiale en apparence, s'apprêta à embrasser le visiteur. Mais celui-ci savait par expérience que, quand le grand écrivain embrassait quelqu'un, il avait coutume de présenter la joue et non les lèvres. Aussi, lui-même, dans la circonstance présente, en usa de cette manière. Le baiser se borna à une rencontre des deux joues. Sans paraître remarquer cela, Karmazinov reprit sa place sur le divan et indiqua aimablement à Pierre Stepanovitch un fauteuil en face de lui. Le jeune homme s'assit sur le siège qu'on lui montrait. « Vous ne voulez pas déjeuner ?» demanda le romancier contrairement à son habitude. Toutefois, on voyait bien qu'il comptait sur un refus poli. Son attente fut trompée. Pierre Stepanovitch s'empressa de répondre affirmativement. L'expression d'une surprise désagréable parut sur le visage de Kermazinov, mais elle n'eut que la durée d'un éclair. Il sonna violemment, et malgré sa parfaite éducation, ce fut d'un ton bourru qu'il ordonna au domestique de dresser un second couvert. « Que prendrez-vous, une côtelette ou du café ? » crut-il devoir demander. « Une côtelette et du café. Faites aussi apporter du vin. J'ai une faim canine !» répondit Pierre Stepanovitch, qui examinait tranquillement le costume de son amphitryon. M. Kermazinov portait une sorte de jaquette en ouate à boutons de nacre, mais trop courte, ce qui faisait un assez vilain effet, vu la rotondité de son ventre. Quoiqu'il fît chaud dans la chambre, sur ses genoux était déployé un plaid en laine d'une étoffe quadrillée qui traînait jusqu'à terre. « Vous êtes malade ?» observa Pierre Stepanovitch. « Non, mais j'ai peur de le devenir dans ce climat, » répondit l'écrivain de sa voix criarde. Du reste, il scandait délicatement chaque mot et suceyait à la façon des barines. « Je vous attendais déjà hier. »« Pourquoi donc ? Je ne vous avais pas promis ma visite ?»« C'est vrai, mais vous avez mon manuscrit. Vous l'avez lu ?»«
Un manuscrit ? Comment ?»
Cette question causa le plus grand étonnement à Kermazinov. Son inquiétude fut telle qu'il en oublia sa tasse de café.
« Mais pourtant vous l'avez apporté avec vous ? »
reprit-il en regardant Pierre Stepanovitch d'un air épouvanté.
« Ah, c'est de ce bonjour que vous parlez, sans doute. »«
Merci.
N'importe, je l'avais tout à fait oublié et je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas le temps. » « Vraiment, je ne sais ce que j'en ai fait. Il n'est pas dans mes poches. Je l'aurais laissé sur ma table. Ne vous inquiétez pas, il se retrouvera. »«
Non, j'aime mieux envoyer tout de suite chez vous. Il peut se perdre ou être volé. »«
Allons donc, qui est-ce qu'il volerait ?
Mais pourquoi êtes-vous si inquiet ? Julie Mikhailovna prétend que vous avez toujours plusieurs copies de chaque manuscrit. » L'une est déposée chez un notaire à l'étranger, une autre est à Pétersbourg, une troisième à Moscou. Vous envoyez aussi un exemplaire à une banque.
Mais Moscou peut brûler, et avec elle mon manuscrit. Non, il vaut mieux que je l'envoie chercher tout de suite.
Attendez, le voici, dit Pierre Stepanovitch. Et il tira d'une poche de derrière un rouleau de papier à lettres de petit format.
Il est un peu chiffonné, et figurez-vous que depuis le jour où vous me l'avez donné, il est resté tout le temps dans ma poche avec mon mouchoir. Je n'y avais plus pensé du tout.
Kermazinov saisit d'un geste rapide son manuscrit, l'examina avec sollicitude, s'assura qu'il n'y manquait aucune page, puis le déposa respectueusement sur une table particulière, mais assez près de lui pour l'avoir à chaque instant sous les yeux.
« À ce qu'il paraît, vous ne lisez pas beaucoup, »
remarqua-t-il d'une voix sifflante.
« Non, pas beaucoup. Et en fait de littérature russe, rien ?»«
En fait de littérature russe, permettez, j'ai lu quelque chose. Le long du chemin, ou en chemin, ou au passage, je ne me rappelle plus le titre. Il y a longtemps que j'ai lu cela, 5 ans. Je n'ai pas le temps de lire. »
La conversation fut momentanément suspendue. « À mon arrivée ici, j'ai assuré à tout le monde que vous étiez un homme extrêmement intelligent. Et maintenant, paraît-il, toute la ville raffole de vous. »«
Je vous remercie, » répondit froidement le visiteur. On apporta le déjeuner. Pierre Stepanovitch ne fit qu'une bouchée de sa côtelette. Quant au vin et au café, il n'en laissa pas une goutte.
Sans doute ce mal appris a senti toute la finesse du trait que je lui ai décoché,
se disait Kermazinov en le regardant de travers.
Je suis sûr qu'il a dévoré avec avidité mon manuscrit. Seulement, il veut se donner l'air de ne l'avoir pas lu.
Mais il se peut aussi qu'il ne mente pas et qu'il soit réellement bête.
J'aime chez un homme de génie un peu de bêtise. Au fait, parmi eux, n'est-ce pas un génie? Du reste que le diable emporte. » Il se leva et commença à se promener d'un bout de la chambre à l'autre. Exercice hygiénique auquel il se livrait toujours après son déjeuner. Pierre Stepanovitch ne quitta point son fauteuil et alluma une cigarette. « Vous n'êtes pas ici pour longtemps ? » demanda-t-il. « Je suis venu surtout pour vendre un bien, et maintenant je dépends de mon intendant. Il paraît que vous êtes revenu en Russie parce que vous vous attendiez à voir là-bas une épidémie succéder à la guerre. » « Non, ce n'est pas tout à fait pour cela, » répondit placidement M. Karmazinov, qui, à chaque nouveau tour dans sa chambre, brandillait son pied droit d'un air gaillard. « Le fait est que j'ai l'intention de vivre le plus longtemps possible, » ajouta-t-il avec un sourire fielleux. « Dans la noblesse russe, il y a quelque chose qui s'use extraordinairement vite sous tous les rapports, mais je veux m'user le plus tard possible. » Et maintenant, je vais me fixer pour toujours à l'étranger. Le climat y est meilleur et l'édifice plus solide. L'Europe durera bien autant que moi, je pense. Quel est votre avis ?
Je n'en sais rien.
Si là-bas, en effet, Babylone s'écroule, sa chute sera un grand événement. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous, quoique je ne vois pas la chose si prochaine. Mais ici, en Russie, ce qui nous menace, ce n'est même pas un écroulement, c'est une dissolution. La Sainte-Russie est le pays du monde qui offre le moins d'éléments de stabilité. Le populaire reste encore plus ou moins attaché au dieu russe. Mais aux dernières nouvelles, le dieu russe était bien malade, à peine s'il a pu résister à l'affranchissement des paysans. Du moins, il a été fort ébranlé. Et puis les chemins de fer, et puis vous, je ne crois plus du tout aux dieux russes.
Et aux dieux européens?
Je ne crois à aucun dieu. On m'a calomnié auprès de la jeunesse russe. J'ai toujours été sympathique à chacun de ces mouvements. On m'a montré les proclamations qui circulent ici. Leur forme effraie le public. Mais il n'est personne qui, sans oser se l'avouer, ne soit convaincu de leur puissance. Depuis longtemps, la société périclite, et depuis longtemps, elle sait qu'elle n'a aucun moyen de salut. Ce qui me fait croire au succès de cette propagande clandestine, c'est que la Russie est maintenant, dans le monde entier, la nation où un soulèvement rencontrerait le moins d'obstacles. Je comprends trop bien pourquoi tous les Russes qui ont de la fortune filent à l'étranger. Et pourquoi cette émigration prend d'année en année des proportions plus considérables? Il y a là un simple instinct. Quand un navire va sombrer, les rats sont les premiers à le quitter. La Sainte-Russie est un pays plein de maisons de bois, de mendiants et de dangers. Un pays où les hautes classes se composent de mendiants vaniteux et où l'immense majorité de la population crève de faim dans des chaumières. Qu'on lui montre n'importe quelle issue, elle l'accueillera avec joie. Il suffit de la lui faire comprendre. Seul le gouvernement veut encore résister, mais il brandit sa massue dans les ténèbres et frappe sur les siens. Ici, tout est condamné. La Russie, telle qu'elle est, n'a pas d'avenir. Je suis devenu allemand, et je m'en fais honneur. Non, mais tout à l'heure, vous parliez des proclamations. « Dites-moi ce que vous en pensez. » On en a peur, cela prouve leur puissance. Elles déchirent tous les voiles et montrent que chez nous on ne peut s'appuyer sur rien. Elles parlent haut dans le silence universel. En laissant de côté la forme, ce qui doit surtout leur assurer la victoire, c'est l'audace, jusqu'ici sans précédent, avec laquelle leurs auteurs envisagent en face la vérité. C'est là un trait qui n'appartient qu'à la génération contemporaine. Non, en Europe, on n'est pas encore aussi hardi. L'autorité y est solidement établie. Il y a encore là des éléments de résistance. Autant que j'en puis juger, tout le fond de l'idée révolutionnaire russe consiste dans la négation de l'honneur. Je suis bien aise que ce principe soit aussi crânement affirmé. En Europe, ils ne comprendront pas encore cela, mais chez nous, rien ne réussira mieux que cette idée. Pour le Russe, l'honneur n'est qu'un fardeau superflu. Et il en a toujours été ainsi à tous les moments de son histoire. Le plus sûr moyen de l'entraîner, c'est de revendiquer carrément le droit au déshonneur. Moi, je suis un homme de l'ancienne génération, et je l'avoue, je tiens encore pour l'honneur. Mais c'est seulement par habitude. Je garde un reste d'attachement aux vieilles formes. Mettons cela, si vous voulez, sur le compte de la pusillanimité. À mon âge, on ne renonce pas facilement à des préjugés invétérés. » Il s'arrêta tout à coup. « Je parle, pensa-t-il. Et il écoute toujours sans rien dire. J'ai pourtant une question à lui adresser. C'est pour cela qu'il est venu. Je vais la lui faire. » Julie Mikhaïlovna m'a prié de vous interroger adroitement afin de savoir quelle est la surprise que vous préparez pour le bal d'après-demain, fit soudain Pierre Stepanovitch. Oui, ce sera en effet une surprise, et j'étonnerai, répondit Karmazinov en prenant un air de dignité. Mais je ne vous dirai pas mon secret. Pierre Stepanovitch n'insista pas. Il y a ici un certain Chatov, poursuivit le grand écrivain. Et figurez-vous, je ne l'ai pas encore vu. C'est un fort brave homme. Eh bien ? Oh, rien, il parle ici de certaines choses. C'est lui qui a donné un soufflet à Stavrogin ? Oui. Et Stavrogin, qu'est-ce que vous pensez de lui ?
Je ne sais pas, c'est un viveur.
Karmazinov haïssait Nicolas Vsevolodovitch parce que ce dernier avait pris l'habitude de ne faire aucune attention à lui. « Si ce qu'on prêche dans les proclamations se réalise un jour chez nous, » observa-t-il en riant, « ce viveur sera sans doute le premier pendu à une branche d'arbre. »« Peut-être même le sera-t-il avant, » dit brusquement Pierre Stepanovitch.
« C'est ce qu'il faudrait, »
reprit Karmazinov, non plus en riant, mais d'un ton très sérieux. « Vous avez déjà dit cela, et vous savez, je le lui ai répété. »
« Vraiment ? Vous le lui avez répété ?»
demanda avec un nouveau rire Karmazinov. « Il a dit que si on le pendait à un arbre, vous, ce serait assez de vous fesser. Non pas, il est vrai pour la forme, mais vigoureusement, comme on fesse un moujik. » Pierre Stepanovitch se leva et prit son chapeau. Karmazinov lui tendit ses deux mains.
« Dites-moi donc !»
commença-t-il tout à coup d'une voix mielleuse et avec une intonation particulière, tandis qu'il tenait les mains du visiteur dans les siennes. « Si tout ce qu'on projette est destiné à se réaliser, eh bien, quand cela pourra-t-il avoir lieu ?»«
Est-ce que je sais ?»
répondit d'un ton un peu brutal Pierre Stepanovitch. Tous deux se regardèrent fixement.
« Approximativement !» « À peu près !»
insista Karmazinov de plus en plus câlin.
« Vous aurez le temps de vendre votre bien et de filer !»
grommela le jeune homme avec un accent de mépris. Les deux interlocuteurs attachèrent l'un sur l'autre un regard pénétrant. Il y eut une minute de silence.
« Cela commencera dans les premiers jours de mai, et pour la fête de l'intercession, tout sera fini !»
déclara brusquement Pierre Stepanovitch.
« Je vous remercie sincèrement, »
dit d'un ton pénétré Karmazinov en serrant les mains du visiteur.
« Tu auras le temps de quitter le navire, rat !» pensa Pierre Stepanovitch quand il fut dans la rue.
« Allons, si cet homme d'État est si soucieux de connaître le jour et l'heure, si le renseignement que je lui ai donné lui a fait autant de plaisir, nous ne pouvons plus après cela douter de nous. » Il sourit. Au fait, ils comptent parmi leurs hommes intelligents, et ils ne songent qu'à déguerpir. Ce n'est pas lui qui nous dénoncera. » Il courut à la maison de Philippov, rue de l'Épiphanie. 6. Pierre Stepanovitch passa d'abord chez Kirillov. Celui-ci, seul comme de coutume, faisait cette fois de la gymnastique au milieu de la chambre, c'est-à-dire qu'il écartait les jambes et tournait les bras au-dessus de lui d'une façon particulière. La balle était par terre. Le déjeuner n'avait pas encore été desservi et il restait du thé froid sur la table. Avant d'entrer, Pierre Stepanovitch s'arrêta un instant sur le seuil. « Tout de même, vous vous occupez beaucoup de votre santé !» dit-il d'une voix sonore et gaie en pénétrant dans la chambre. « Quelle belle balle ! Oh, comme elle rebondit ! C'est aussi pour faire de la gymnastique ?» Kirillov mit sa redingote. « Oui, c'est pour ma santé » murmura-t-il d'un ton sec. « Asseyez-vous. Je ne resterai qu'une minute. Du reste, je vais m'asseoir. » reprit Pierre Stepanovitch. Puis, sans transition, il passa à l'objet de sa visite. « C'est bien de soigner sa santé, mais je suis venu vous rappeler notre convention. L'échéance approche en un certain sens. »«
Quelle convention ?»«
Comment, quelle convention ?» fit le visiteur inquiet.
« Ce n'est ni une convention ni un engagement. Je ne me suis pas lié, vous vous trompez. »
« Écoutez, que comptez-vous donc faire ?» demanda en se levant brusquement Pierre Stepanovitch.
« Ma volonté. »«
Laquelle ?»«
L'ancienne. »«
Comment dois-je comprendre vos paroles ? C'est-à-dire que vous êtes toujours dans les mêmes idées ?»«
Oui, seulement il n'y a pas de convention et il n'y en a jamais eu. Je ne me suis lié par rien. Maintenant, comme autrefois, je n'entends faire que ma volonté. »
Kirillov donna cette explication d'un ton roide et méprisant. Pierre Stepanovitch se rassit satisfait.
« Soit, soit, dit-il, faites votre volonté, du moment que cette volonté n'a pas varié. Vous vous fâchez pour un mot. Vous êtes devenu fort irascible depuis quelque temps. C'est pour cela que j'évitais de venir vous voir. Du reste, j'étais bien sûr que vous ne trahiriez pas.
Je suis loin de vous aimer, mais vous pouvez être parfaitement tranquille. Quoique pourtant, je trouve les mots de trahison et de non-trahison tout à fait déplacés dans la circonstance. »
Cependant, répliqua Pierre Stepanovitch de nouveau pris d'inquiétude, il faudrait préciser pour éviter toute erreur. C'est une affaire où l'exactitude est nécessaire, et votre langage m'a abasourdi positivement. Voulez-vous me permettre de parler ?
Parlez, répondit l'ingénieur en regardant dans le coin.
Depuis longtemps déjà, vous avez résolu de vous ôter la vie. C'est-à-dire que vous aviez cette idée, est-ce vrai ? N'y a-t-il pas d'erreur dans ce que je dis ?
J'ai toujours la même idée.
Très bien. Remarquez en outre que personne ne vous y a forcé.
Il ne manquerait plus que cela. « Quelle bêtise, vous dites !»«
Soit, soit, je me suis fort bêtement exprimé. Sans doute, il aurait été très bête de vous forcer à cela. Je continue. Vous avez fait partie de la société dès sa fondation, et vous vous êtes ouvert de votre projet à un membre de la société. »«
Je ne me suis pas ouvert. J'ai dit cela tout bonnement. »«
Très bien. » »«
Non, ce n'est pas très bien. » car je n'aime pas à vous voir éplucher ainsi mes actions. Je n'ai pas de compte à vous rendre, et vous ne pouvez comprendre mes desseins. Je veux m'ôter la vie parce que c'est mon idée, parce que je n'admets pas la peur de la mort, parce que... Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Vous voulez boire du thé ? Il est froid. Laissez, je vais vous donner un autre verre. »
Pierre Stepanovitch avait, en effet, saisi la théière et cherchait dans quoi il pourrait se verser à boire. Kirillov alla à l'armoire et en rapporta un verre propre. « J'ai déjeuné tout à l'heure chez Kermazinov et ses discours m'ont fait suer, » observa le visiteur. « Ensuite j'ai couru ici, ce qui m'a de nouveau mis en sueur. Je meurs de soif. »
« Buvez, le thé froid n'est pas mauvais. »
Kirillov reprit sa place et se remit à regarder dans le coin.
La société a pensé, poursuivit-il du même ton, que mon suicide pourrait être utile, et que, quand vous auriez fait ici quelques sottises dont on rechercherait les auteurs, si tout à coup je me brûlais la cervelle en laissant une lettre où je me déclarerais coupable de tout, cela vous mettrait à l'abri du soupçon pendant toute une année.
Du moins pendant quelques jours. En pareil cas, c'est déjà beaucoup que d'avoir 24 heures devant soi.
Bien. On m'a donc demandé si je ne pouvais pas attendre. J'ai répondu que j'attendrais aussi longtemps qu'il plairait à la société, vu que cela m'était égal.
Oui, mais rappelez-vous que vous avez pris l'engagement de rédiger 2 concerts avec moi à la lettre dont il s'agit, et de vous mettre, dès votre arrivée en Russie, à ma disposition, bien entendu pour cette affaire seulement, car pour tout le reste, il va de soi que vous êtes libre,
ajouta presque aimablement Pierre Stepanovitch. Je ne me suis pas engagé, j'ai consenti parce que cela m'était égal.
Très bien, je n'ai nullement l'intention de froisser votre amour-propre, mais...
Il n'est pas question ici d'amour-propre.
Mais souvenez-vous qu'on vous a donné 120 thalers pour votre voyage. Par conséquent, vous avez reçu de l'argent.
Pas du tout, répliqua en rougissant Kirillov. L'argent ne m'a pas été donné à cette condition. On n'en reçoit pas pour cela.
Quelquefois.
Vous mentez. J'ai écrit de Pétersbourg une lettre très explicite à cet égard. Et à Pétersbourg même, je vous ai remboursé les 120 thalers. Je vous les ai remis en main propre. Et ils ont reçu cet argent. Si toutefois, vous ne l'avez pas gardé dans votre poche.
Bien, bien, je ne conteste rien. Je leur ai envoyé l'argent. L'essentiel, c'est que vous soyez toujours dans les mêmes dispositions qu'auparavant.
Mes dispositions n'ont pas changé. Quand vous viendrez me dire « Il est temps », je m'exécuterai. Ce sera bientôt ?
Le jour n'est plus fort éloigné, mais rappelez-vous que nous devons faire la lettre ensemble la veille au soir.
Quand ce serait le jour même, il faudra que je me déclare l'auteur des proclamations et de quelques autres choses encore.
Je ne prendrai pas tout sur moi.
Pourquoi donc ? Demanda Pierre Stepanovitch, alarmé de ce refus.
Parce que je ne veux pas.
Assez, je ne veux plus parler de cela. Ces mots causèrent une vive irritation à Pierre Stepanovitch, mais il se contint et changea la conversation.
Ma visite a encore un autre objet, reprit-il. Vous viendrez ce soir chez les nôtres? C'est aujourd'hui la fête de Virginsky. Ils se réuniront sous ce prétexte.
Je ne veux pas.
Je vous en prie, venez, il le faut. Nous devons imposer, et par le nombre et par l'aspect. Vous avez une tête, disons le mot, une tête fatale.
Vous trouvez ? Dit en riant Kirillov.
C'est bien, j'irai, mais je ne poserai pas pour la tête.
Quand ?
Oh, de bonne heure, à 6h30. Vous savez, vous pouvez entrer, vous asseoir et ne parler à personne, quelque nombreuse que soit l'assistance. Seulement, n'oubliez pas de prendre avec vous un crayon et un morceau de papier.
Pourquoi ?
Cela vous est égal et je vous le demande instamment. Vous n'aurez qu'à rester là sans parler à personne. Vous écouterez et de temps à autre, vous ferez semblant de prendre des notes. Libre à vous d'ailleurs de crayonner des croquis sur votre papier.
Quelle bêtise! À quoi bon?
Mais puisque cela vous est égal, vous ne cessez de dire que tout vous est indifférent.
Non, je veux savoir pourquoi.
Eh bien, voici. Le membre de la société qui remplit la fonction de réviseur s'est arrêté à Moscou, et j'ai fait espérer sa visite à quelques-uns des nôtres. Ils penseront que vous êtes ce réviseur. Or, comme vous vous trouvez ici déjà depuis 3 semaines, l'effet sera encore plus grand.
C'est de la farce. Vous n'avez aucun réviseur à Moscou.
Allons, soit, nous n'en avons pas, mais qu'est-ce que cela vous fait? Et comment ce détail peut-il vous arrêter? Vous-même êtes membre de la société. Dites-leur que je suis le réviseur. Je m'assierai et je me tiendrai quoi? Mais je ne veux ni papier ni crayon.
Mais pourquoi?
Je ne veux pas.
Pierre Stepanovitch blêmit de colère. Néanmoins, cette fois encore, il se rendit maître de lui, se leva et prit son chapeau.
« L'homme est chez vous ? » demanda-t-il soudain à demi-voix.
« Oui. C'est bien. Je ne tarderai pas à vous débarrasser de lui. Soyez tranquille. »«
Il ne me gêne pas, je ne l'ai que la nuit. La vieille est à l'hôpital, sa belle-fille est morte. Depuis 2 jours, je suis seul. » Je lui ai montré l'endroit de la cloison où il y a une planche facile à déplacer. Il s'introduit par là, personne ne le voit.
Je le retirerai bientôt de chez vous.
Il dit qu'il ne manque pas d'endroit où il peut aller coucher.
Il ment, on le cherche, et ici pour le moment il est en sûreté. Est-ce que vous causez avec lui?
Oui, tout le temps. Il dit beaucoup de mal de vous. La nuit dernière, je lui ai lu l'Apocalypse et lui ai fait boire du thé. Il a écouté attentivement, fort attentivement même, toute la nuit.
Ah, diable, mais vous allez le convertir à la religion chrétienne.
Il est déjà chrétien. Ne vous inquiétez pas, il tuera.
Qui voulez-vous faire assassiner?
Non, ce n'est pas pour cela que j'ai besoin de lui. Chatov sait-il que vous donnez l'hospitalité à Fedka?
Je ne vois pas, Chatov, et nous n'avons pas de rapport ensemble.
Vous êtes fâchés l'un contre l'autre?
Non, nous ne sommes pas fâchés, mais nous ne nous parlons pas. Nous avons couché trop longtemps côte à côte en Amérique.
Je passerai chez lui tout à l'heure.
Comme vous voudrez.
Vers 10 heures, en sortant de chez Verginski, je viendrai peut-être chez vous avec Stavrogin.
Venez.
Il faut que j'aie un entretien sérieux avec lui. Vous savez, donnez-moi donc votre balle.
Quel besoin en avez-vous maintenant?
Je fais aussi de la gymnastique.
Si vous voulez, je vous l'achèterai.
Prenez-la, je vous la donne.
Pierre Stepanovitch mit la balle dans sa poche.
Mais je ne vous fournirai rien contre Stavrogin,
murmura Kirillov en reconduisant le visiteur, qui le regarda avec étonnement et ne répondit pas. Les dernières paroles de l'ingénieur agitèrent extrêmement Pierre Stepanovitch. Il y réfléchissait encore en montant l'escalier de Chatov, quand il songea qu'il devait donner à son visage mécontent une expression plus avenante. Chatov se trouvait chez lui. Un peu souffrant, il était couché, tout habillé, sur son lit.
« Quel guignon !
S'écria en entrant dans la chambre Pierre Stepanovitch.
« Vous êtes sérieusement malade ?»
Ses traits avaient tout à coup perdu leur amabilité d'emprunt. Un éclair sinistre brillait dans ses yeux. Chatov sauta brusquement à bas de son lit.
« Pas du tout !» répondit-il d'un air effrayé. « Je ne suis pas malade, j'ai seulement un peu mal à la tête. »
L'apparition inattendue d'un tel visiteur l'avait positivement effrayé.
Je viens justement pour une affaire qui n'admet pas la maladie,
commença d'un ton presque impérieux Pierre Stepanovitch. Permettez-moi de m'asseoir. Il s'assit. Et vous, reprenez place sur votre lit, c'est bien. Aujourd'hui, une réunion des nôtres aura lieu chez Virginski sous prétexte de fêter l'anniversaire de sa naissance. Les mesures sont prises pour qu'il n'y ait pas d'intrus. Je viendrai avec Nicolas Stavrogin. Sans doute, connaissant vos opinions actuelles, je ne vous inviterai pas à assister à cette soirée. Non que nous craignions d'être dénoncés par vous, mais pour vous épargner un ennui. Cependant, votre présence est indispensable. Vous rencontrerez là ceux avec qui nous déciderons définitivement de quelle façon doit s'opérer votre sortie de la société et entre quelles mains vous aurez à remettre ce qui se trouve chez vous. Nous ferons cela sans bruit. Je vous emmènerai à l'écart dans quelque coin. L'assistance sera nombreuse et il n'est pas nécessaire d'initier tout le monde à ces détails. J'avoue que j'ai eu beaucoup de peine à triompher de leur résistance. Mais maintenant, paraît-il, ils consentent.
à condition, bien entendu, que vous vous dessaisirez de l'imprimerie et de tous les papiers. Alors, vous serez parfaitement libre de vos agissements. »
Tandis que Pierre Stepanovitch parlait, Chatov l'écoutait, les sourcils froncés. Sa frayeur de tantôt avait disparu pour faire place à la colère.
« Je ne me crois aucunement tenu de rendre des comptes, le diable sait à qui » déclara-t-il tout net. « Je n'ai besoin de l'agrément de personne pour reprendre ma liberté. »
« Ce n'est pas tout à fait exact. On vous a confié beaucoup de secrets. Vous n'aviez pas le droit de rompre de but en blanc. Et enfin, vous n'avez jamais manifesté nettement l'intention de vous retirer, de sorte que vous les avez mis dans une fausse position. »
« Dès mon arrivée ici, j'ai fait connaître mes intentions par une lettre fort claire. »«
Non, pas fort claire, » contesta froidement Pierre Stepanovitch. « Par exemple, je vous ai envoyé, pour les imprimer ici, la personnalité éclairée, ainsi que deux proclamations. Vous m'avez retourné le tout avec une lettre équivoque, ne précisant rien. »
« J'ai carrément refusé d'imprimer. »
« Vous avez refusé, mais pas carrément. Vous avez répondu « Je ne puis pas », sans expliquer pour quel motif.
Or, « Je ne sais pas » n'a jamais voulu dire « Je ne veux pas ». On pouvait supposer que vous étiez simplement empêché par des obstacles matériels, et c'est ainsi que votre lettre a été comprise. Ils ont cru que vous n'aviez pas rompu vos liens avec la société. Dès lors, ils ont pu vous continuer leur confiance et par suite se compromettre. Ici, l'on croit que vous vous êtes servi avec intention de termes vagues. Vous vouliez, dit-on, tromper vos co-associés pour les dénoncer quand vous auriez reçu d'eux quelques communications importantes. Je vous ai défendu de toutes mes forces et j'ai montré comme pièce à l'appui de votre innocence les deux lignes de réponse que vous m'avez adressées. Mais j'ai dû moi-même reconnaître, après les avoir relues, que ces deux lignes ne sont pas claires et peuvent induire en erreur.
Vous aviez conservé si soigneusement cette lettre par-devers vous?
Mais qu'est-ce que cela fait que je l'ai conservée? Elle est encore chez moi.
Peu m'importe, cria Chatov avec irritation. Libre à vos imbéciles de croire que je les ai dénoncés. Je m'en moque. Je voudrais bien voir ce que vous pouvez me faire.
On vous noterait, et au premier succès de la Révolution, vous seriez pendu.
Quand vous aurez conquis le pouvoir suprême et que vous serez les maîtres de la Russie?
Ne riez pas. Je le répète, j'ai pris votre défense. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de venir aujourd'hui à la Réunion. À quoi bon de vaines paroles dictées par un faux orgueil? Ne vaut-il pas mieux se séparer amicalement? En tout cas, il faut que vous rendiez le matériel typographique. Nous aurons réussi à parler de cela.
J'irai, grommela Chatov, qui, la tête baissée, semblait absorbé dans ses réflexions. Pierre Stepanovitch le considérait d'un œil malveillant.
Stavrogin y sera ?
Demanda tout à coup Chatov en relevant la tête.
Il y sera, certainement.
Hé hé ! Il y eut une minute de silence. Un sourire de colère et de mépris flottait sur les lèvres de Chatov.
Et votre misérable personnalité éclairée dont j'ai refusé l'impression ici, elle est imprimée?
Oui.
On fait croire aux collégiens que Herzen lui-même a écrit cela sur votre album.
Oui, c'est Herzen lui-même. Ils se turent encore pendant 3 minutes. À la fin, Chatov quitta son lit.
Allez-vous-en loin de moi, je ne veux pas me trouver avec vous.
Pierre Stepanovitch se leva aussitôt. Je m'en vais, dit-il avec une sorte de gaieté. Un mot seulement. Kirillov, à ce qu'il paraît, est maintenant tout seul dans le pavillon, sans servante.
Il est tout seul, allez-vous-en. Je ne puis rester dans la même chambre que vous.
Allons, tu es très bien maintenant, pensa joyeusement Pierre Stepanovitch quand il fut hors de la maison.
Tu seras aussi très bien ce soir. J'ai justement besoin que tu sois comme cela. Et je ne pourrais rien désirer de mieux. Le dieu russe lui-même me vient en aide. »
Il fit beaucoup de courses durant cette journée et sans doute ne perdit pas ses peines, car sa figure était rayonnante quand le soir, à 6 heures précises, il se présenta chez Nicolas Vsevolodovitch. On ne l'introduisit pas tout de suite. Stavrogin se trouvait dans son cabinet en tête-à-tête avec Maurice Nikolaïevitch qui venait d'arriver. Cette nouvelle intrigua Pierre Stepanovitch. Il s'assit tout près de la porte du cabinet pour attendre le départ du visiteur. De l'antichambre, on entendait le bruit de la conversation, mais sans pouvoir rien saisir des paroles prononcées. La visite ne dura pas longtemps. Bientôt retentit une voix extraordinairement forte et vibrante. Immédiatement après, la porte s'ouvrit et Maurice Nikolaïevitch sortit avec un visage livide. Il ne remarqua pas Pierre Stepanovitch et passa rapidement à côté de lui. Le jeune homme s'élança aussitôt dans la chambre. Je me crois obligé de raconter en détail l'entrevue fort courte des deux rivaux. Entrevue que tout semblait devoir rendre impossible, et qui eut lieu néanmoins. Après son dîner, Nicolas Vsevolodovitch sommeillait sur une couchette dans son cabinet, lorsque Alexis Segorovitch lui annonça l'arrivée de Maurice Nikolaïevitch. À ce nom, Stavrogin tressaillit. Il croyait avoir mal entendu. Mais bientôt se montra sur ses lèvres un sourire de triomphe hautain, en même temps que de vagues surprises. En entrant, Maurice Nikolaïevitch fut sans doute frappé de ce sourire, du moins, il s'arrêta tout à coup au milieu de la chambre et parut se demander s'il ferait un pas de plus en avant ou s'il se retirerait sur l'heure. À l'instant même, la physionomie de Nicolas Vsevolodovitch changea d'expression. D'un air sérieux et étonné, il s'avança vers le visiteur. Ce dernier ne prit pas la main qui lui était tendue et, sans dire un mot, il s'assit avant que le maître de la maison lui en eût donné l'exemple ou lui eût offert un siège. Nicolas Vsevolodovitch s'assit sur le bord de sa couchette et attendit en silence, les yeux fixés sur Maurice Nikolaïevitch. « Si vous le pouvez, épousez Elisabeth Nikolaïevna !» commença brusquement le capitaine d'artillerie, et le plus curieux, c'est qu'on aurait pu deviner, d'après l'intonation de sa voix, si ces mots étaient une prière, une recommandation, une concession ou un ordre. Nicolas Vsevolodovitch resta silencieux, mais le visiteur, ayant dit évidemment tout ce qu'il avait à dire, le regardait avec persistance, dans l'attente d'une réponse. « Si je ne me trompe... » Du reste, ce n'est que trop vrai. « Elisabeth Nikolaïevna est votre fiancée ?» observa enfin Stavrogin. « Oui, elle est ma fiancée, » déclara d'un ton ferme le visiteur. « Vous êtes brouillés ensemble ? Excusez-moi, Maurice Nikolaïevitch. « Non, elle m'aime et m'estime, » dit-elle. « Ses paroles sont on ne peut plus précieuses pour moi. »
« Je n'en doute pas. »
Mais sachez-le, elle serait sous la couronne et vous l'appelleriez qu'elle me planterait là, moi ou tout autre, pour aller à vous. »
« Étant sous la couronne ? » ?»«
Et après la couronne ?»«
Ne vous trompez-vous pas ? » ?»«
Non, sous la haine incessante, sincère et profonde qu'elle vous témoigne, perce à chaque instant un amour insensé. L'amour le plus sincère, le plus excessif et le plus fou. Par contre, sous l'amour non moins sincère qu'elle ressent pour moi, perce à chaque instant la haine la plus violente. Je n'aurais jamais pu imaginer auparavant toutes ces métamorphoses.
Mais je m'étonne pourtant que vous veniez m'offrir la main d'Elisabeth Nikolaïevna. En avez-vous le droit? Vous y a-t-elle autorisé?
Maurice Nikolaïevitch fronça le sourcil et pendant une minute baissa la tête.
« De votre part, ce ne sont là que des mots, » dit-il brusquement. « Des mots où éclate la rancune triomphante. Je suis sûr que vous savez lire entre les lignes. Et se peut-il qu'il y ait place ici pour une vanité mesquine? N'êtes-vous pas assez victorieux? Faut-il donc que je mette les points sur les i? Soit, je les mettrai, si vous tenez tant à m'humilier. J'agis sans droit, je ne suis aucunement autorisé. Elisabeth Nikolaïevna ne sait rien, mais son fiancé a complètement perdu la raison. Il mérite d'être enfermé dans une maison de fous. Et pour comble, lui-même vient vous le déclarer. Seul dans le monde entier, vous pouvez la rendre heureuse. Et moi, je ne puis que faire son malheur. Vous la lutinez, vous la pourchassez, mais j'ignore pourquoi vous ne l'épousez pas. S'il s'agit d'une querelle d'amoureux nés à l'étranger, et si pour y mettre fin mon sacrifice est nécessaire, immolez-moi. Elle est trop malheureuse, et je ne puis supporter cela. Mes paroles ne sont ni une permission, ni une injonction. Par conséquent, elles n'ont rien d'offensant pour votre amour-propre. Si vous voulez prendre ma place sous la couronne, vous n'avez nul besoin pour cela de mon consentement. Et sans doute, il était inutile que je vinsse étaler ma folie à vos yeux. D'autant plus qu'après ma démarche actuelle, notre mariage est impossible. Si à présent je la conduisais à l'hôtel, je serais un misérable. L'acte que j'accomplis en vous la livrant, à vous peut-être son plus irréconciliable ennemi, est, à mon point de vue, une infamie dont certainement je ne supporterai pas le fardeau. Vous vous brûlerez la cervelle quand on nous mariera?
Non, beaucoup plus tard. À quoi bon mettre une éclaboussure de sang sur sa robe nuptiale? Peut-être même ne me brûlerai-je la cervelle, ni maintenant, ni plus tard.
Vous dites cela sans doute pour me tranquilliser.
Vous, ma mort doit vous être bien indifférente.
Un silence d'une minute suivit ces paroles. Maurice Nikolaïevitch était pâle et ses yeux étincelaient.
Pardonnez-moi les questions que je vous ai adressées, dit Stavrogin. Plusieurs d'entre elles étaient fort indiscrètes, mais il est une chose que j'ai, je pense, parfaitement le droit de vous demander. Pour que vous ayez pris sur vous de venir me faire une proposition aussi risquée, il faut que vous soyez bien convaincu de mes sentiments à l'égard d'Elisabeth Nikolaïevna. Or, quelles données vous ont amené à cette conviction?
Comment? Fit avec un léger frisson Maurice Nikolaïevitch. Est-ce que vous n'avez pas prétendu à sa main? N'y prétendez-vous pas maintenant encore?
En général, je ne puis parler à un tiers de mes sentiments pour une femme. « Excusez-moi, c'est une bizarrerie d'organisation, mais pour le reste, je vous dirai toute la vérité. Je suis mariée. Il ne m'est donc plus possible ni d'épouser Elisabeth Nikolaïevna, ni de prétendre à sa main. »
Maurice Nikolaïevitch fut tellement stupéfait qu'il se renversa sur le dossier de son fauteuil. Pendant un certain temps, ses yeux ne quittèrent pas le visage de Stavrogin.
Figurez-vous que cette idée ne m'était pas venue, balbutia-t-il. Vous avez dit l'autre jour que vous n'étiez pas marié. Je croyais que vous ne l'étiez pas.
Il pâlit affreusement et soudain déchargea un violent coup de poing sur la table.
Si! Après un tel aveu, vous ne laissez pas tranquille Elisabeth Nikolaïevna. Si vous la rendez vous-même malheureuse, je vous tuerai à coups de bâton comme un chien. »
Sur ce, il sortit précipitamment de la chambre.
Pierre Stepanovitch, qui entra aussitôt après, trouva le maître du logis dans une disposition d'esprit fort inattendue.
« Ah, c'est vous ?»
fit Stavrogine avec un rire bruyant qui semblait n'avoir pour cause que la curiosité empressée de Pierre Stepanovitch.
« Vous écoutiez derrière la porte ?»«
Attendez, pourquoi êtes-vous venu ?»«
Je vous avais promis quelque chose. »
« Ah bah, je me rappelle, la visite au nôtre.
Partons, je suis enchantée. Vous ne pouviez rien me proposer de plus agréable en ce moment. »
Il prit son chapeau et tous deux sortirent immédiatement.
« Vous riez d'avance à l'idée de voir les nôtres ?»
observa avec enjouement Pierre Stepanovitch, qui tantôt s'efforçait de marcher à côté de son compagnon sur les trois trottoirs pavés en briques, tantôt descendait sur la chaussée et trottait en pleine boue, parce que Stavrogine, sans le remarquer, occupait à lui seul toute la largeur du trottoir.
« Je ne ris pas du tout !»
répondit d'une voix sonore et gaie Nicolas Vsevolodovitch.
« Au contraire, je suis convaincu que je trouverai là les gens les plus sérieux. »
« De mornes imbéciles, comme vous les avez appelés un jour. »
« Rien n'est parfois plus amusant qu'un morne imbécile.
Ah, »« Vous dites cela à propos de Maurice Nikolaïevitch ?
Je suis sûr qu'il est venu tout à l'heure vous offrir sa fiancée.
Hein ? Figurez-vous, c'est moi qui l'ai poussé indirectement à faire cette démarche.
D'ailleurs, s'il ne la cède pas, nous la lui prendrons nous-mêmes, pas vrai ?»
Sans doute Pierre Stepanovitch savait qu'il jouait gros jeu en mettant la conversation sur ce sujet. Mais lorsque sa curiosité était vivement excitée, il aimait mieux tout risquer que de rester dans l'incertitude. Nicolas Vsevolodovitch se contenta de sourire.
« Vous comptez toujours m'aider ? » demanda-t-il.
« Si vous faites appel à mon aide, mais vous savez qu'il n'y a qu'un bon moyen. »
« Je connais votre moyen. »
« Non, c'est encore un secret. Seulement, rappelez-vous que ce secret coûte de l'argent. »«
Je sais même combien il coûte !»
grommela à part soi Stavrogine. Pierre Stepanovitch tressaillit.
« Combien ? Qu'est-ce que vous avez dit ?»«
J'ai dit, allez-vous-en au diable avec votre secret. Apprenez-moi plutôt qui nous verrons là. Je sais que Virginsky reçoit à l'occasion de sa fête. » « Mais quels sont ses invités ?»«
Oh, il y aura là une société des plus variées. Kirillov lui-même y sera. »«
Tous membres de section ?»«
Peste, comme vous y allez. Jusqu'à présent, il n'existe pas encore ici une seule section organisée. »«
Comment donc avez-vous fait pour répandre tant de proclamations ?»«
Là où nous allons, il n'y aura en tout que 4 sectionnaires. » En attendant, les autres s'espionnent à qui mieux, et chacun d'eux m'adresse des rapports sur ses camarades. Ces gens-là donnent beaucoup d'espérance, ce sont des matériaux qu'il faut organiser. Du reste, vous-même avez rédigé le statut, il est inutile de vous expliquer les choses.
Eh bien, ça ne marche pas ? Il y a du tirage ?
Ça marche, on ne peut mieux. Je vais vous faire rire. Le premier moyen d'action, c'est l'uniforme. Il n'y a rien de plus puissant que la livrée bureaucratique. J'invente exprès des titres et des emplois. J'ai des secrétaires, des émissaires secrets, des caissiers, des présidents, des registrateurs. Ce truc réussit admirablement. Vient ensuite, naturellement, la sentimentalité, qui chez nous est le plus efficace agent de la propagande socialiste. Le malheur, ce sont ces sous-lieutenants qui mordent. Et puis, il y a les purs coquins. Ces derniers sont parfois fort utiles, mais avec eux, on perd beaucoup de temps, car ils exigent une surveillance continuelle. Enfin, la principale force, le ciment qui relie tout, c'est le respect humain, la peur d'avoir une opinion à soi. Oui, c'est justement avec de pareils gens que le succès est possible. Je vous le dis, ils se jetteraient dans le feu à ma voix. Je n'aurai qu'à leur dire qu'ils manquent de libéralisme. Des imbéciles me blâment d'avoir trompé tous mes associés d'ici en leur parlant de comité central et de ramifications innombrables.
Vous-même, vous m'avez une fois reproché cela. Mais où est la tromperie?
Le comité central, c'est moi et vous. Quant aux ramifications, il y en aura autant qu'on voudra.
Et toujours de la racaille semblable?
Ce sont des matériaux. Ils sont bons tout de même.
Vous n'avez pas cessé de compter sur moi.
Vous serez le chef, la force dirigeante. Moi, je ne serai que votre second, votre secrétaire. Vous savez, nous voguerons portés sur un esquif aux voiles de soie, aux rames d'érable. À la poupe sera assise une belle demoiselle, Elisabeth Nikolaïevna. Est-ce qu'il n'y a pas une chanson comme cela?
Stavrogin se mit à rire.
Non, je préfère vous donner un bon conseil. Vous venez d'énumérer les procédés dont vous vous servez pour cimenter vos groupes. Ils se réduisent au fonctionnarisme et à la sentimentalité. Tout cela n'est pas mauvais comme clistère, mais il y a quelque chose de meilleur encore. Persuadez à 4 membres d'une section d'assassiner le 5e sous prétexte que c'est un mouchard. Et aussitôt le sang versé les liera tous indissolublement à vous. Ils deviendront vos esclaves. Ils n'oseront ni se mutiner, ni vous demander des comptes.
Toi, pourtant, il faudra que tu me payes cela.
Pensa à part soi Pierre Stepanovitch. Et pas plus tard que ce soir. Tu te permets beaucoup trop.
Voilà, ou à peu près, ce que dut se dire Pierre Stepanovitch. Du reste, ils approchaient déjà de la maison de Virginsky.
Vous m'avez probablement fait passer auprès d'eux pour quelques membres arrivés de l'étranger en rapport avec l'international, pour un réviseur,
demanda tout à coup Stavrogin.
Non, le réviseur ce sera un autre. Vous êtes un des membres qui ont fondé la société à l'étranger et vous connaissez les secrets les plus importants. Voilà votre rôle. Vous parlerez sans doute.
Où avez-vous pris cela?
Maintenant, vous êtes tenu de parler.
Dans son étonnement, Nicolas Vsevolodovitch s'arrêta au milieu de la rue, non loin d'un réverbère. Pierre Stepanovitch soutint avec une tranquille assurance le regard de son compagnon. Celui-ci lança un jet de salive et se remit en marche.
Et vous, est-ce que vous prendrez la parole?
Demanda-t-il brusquement à Pierre Stepanovitch.
Non, je vous écouterai.
Que le diable vous emporte.
Au fait, vous me donnez une idée.
Laquelle?
Fit vivement Pierre Stepanovitch.
Soit je parlerai peut-être là, mais ensuite je vous flanquerai une rossée, et vous savez, une rossée sérieuse.
Dites donc, tantôt j'ai répété à Karmazinov le propos que vous avez tenu sur son compte, à savoir qu'il faudrait le fesser, non pas seulement pour la forme, mais vigoureusement, comme on fesse un moujik.
Mais je n'ai jamais dit cela.
N'importe, c'est non è vero.
Eh bien, merci, je vous suis très obligé.
Savez-vous ce que dit Karmazinov? D'après lui, notre doctrine est, au fond, la négation de l'honneur. Et affirmer franchement le droit au déshonneur, c'est le plus sûr moyen d'avoir les Russes pour soi.
Paroles admirables, paroles d'or, s'écria Stavrogin.
Il a dit le vrai mot, le droit au déshonneur.
Mais avec cela, tout le monde viendra avec nous. Il ne restera plus personne dans l'autre camp.
Écoutez pourtant, Verkhovansky, vous ne faites pas partie de la haute police, hein?
Celui qui se pose de pareilles questions les garde généralement pour lui.
Sans doute, mais nous sommes entre nous.
Non, jusqu'à présent, je ne sers pas dans la haute police.
Assez, nous voici arrivés. Composez votre physionomie, Stavrogin.
Moi, j'ai toujours soin de me faire une tête quand je vais chez eux.
Il faut se donner un air un peu sombre. Voilà tout. Ce n'est pas bien malin.